Chers amis, Hachem Alechem Techio, les Orechem Yutamim Shanim Nehemi, nous poursuivons notre étude du Sefer Shemot que nous entamons ces jours-ci. Alors il est dit, Ve'ele Shemot Bene Israël Abaim Mitzrayma. Et voici les noms des fils d'Israël qui arrivent en Égypte. Alors, Et Yaakov, Ishu Beto Baou. Ils accompagnent Yaakov, chacun avec sa famille. Beto, c'est le concept de sa femme. Alors pourquoi la question qui se pose ici, c'est que au début il commence, le verset s'ouvre sur les fils d'Israël, et tout de suite il est dit avec Yaakov, ils sont venus avec Yaakov. Donc il y a ici deux terminologies, Israël et Yaakov. Et au début ils sont qualifiés de béni Israël. Après il nous dit et Yaakov ishobetobau, ils sont venus avec Yaakov. Donc n'est-ce pas les mêmes, ne sont-ils pas les mêmes individus? Alors pourquoi? Pourquoi mentionner les deux éléments, les deux idées, Yaakov, Israël au début et après Yaakov. Quel est l'intérêt de mentionner ces deux qualificatifs des enfants d'Israël? Alors dans le Zohar soulève cette question et il indique que Yaakov et ses enfants, les 12 enfants, au nombre de 70, c'est le nombre des individus, le nombre des membres de la famille de Yaakov qui descendent en Égypte, ne sont pas uniquement venus en Égypte seuls. Donc ils ont des forces. Alors, Israël, c'est un concept spirituel. Le Zohar indique que la structure des enfants de Yaakov, leurs différents noms ça correspond à une structure spirituelle dans les cieux. Donc c'est la structure qui enveloppe, qui entoure la présence divine. Donc les malachim, le Zohar dit, si Akadosh Baruch Hu interpelle sa cour céleste, et elle leur dit, qu'est-ce que vous venez faire ici alors que mes enfants sont en Égypte? Allons, descendons et partageons leur exil. Donc il fait descendre, comme Akadosh Baruch Hu descend lui-même et emmène avec lui la cour céleste, toutes les légions de Malachim qui entourent son trône. Et c'est cela qui est mentionné, Ve'ele Shemot Bene Israël. Ce Béni Israël-là fait référence à la cour céleste, qui descendent, qui viennent, qui accompagnent Yaakov ici-bas, qui accompagnent Yaakov et ses enfants. Ishu Beto Baou. Donc ici, il est mentionné, un homme, chaque homme, est venu avec son épouse. Alors l'homme indique le masculin. Le masculin, et Beto, c'est le féminin. Qu'est-ce que ça veut dire, le masculin et le féminin? Le masculin, il y a deux concepts dans la création du monde qui sont récurrents et qui reviennent continuellement. C'est le concept du donneur et du receveur. Quand Akadosh Baruch Hu crée le monde, il est donneur, l'homme est le receveur de la vie. Puis l'homme lui-même devient donneur. Donc Akadosh Baruch Hu prend une partie de l'homme et en fait la femme. Puis, donc la femme reçoit de l'homme, ou une partie de l'homme. Puis elle-même, elle devient donneur. Donc tout le système de la vie, il est donneur-receveur. Donneur-receveur. Le donneur, le receveur devenant plus tard à son tour donneur. Donc c'est ça le masculin-féminin, c'est ça le concept. Ish ou beto. Donc de telle sorte que les individus sur terre, les enfants de Yaakov qui viennent en Égypte, ils sont les receveurs, les réceptacles, les récipiendaires des énergies diffusées par les légions célestes qui les accompagnent. Donc il y a ici une cohésion et une symétrie, une fidélité entre le bas et le haut, les éléments physiques et les individus en Égypte. Les enfants de Jacob et ses enfants font référence, traduisent la présence spirituelle de la Shekhina, Kadosh Baruch Hu, la Shekhina, et les légions d'anges qui les accompagnent. Donc, rien ne sera fait en dehors de ce concept-là. Donc, ils sont receveurs, Ish ou Beto, celui qui donne et celui qui reçoit. De telle sorte que celui qui reçoit, il va à son tour devenir donneur. Alors, on nous cite Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Donc, ici, c'est, alors, il est intéressant de noter que les 11 tribus citées, ils sont dans un certain ordre, nous allons voir. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun ou Binyamin. Là, sont cités 7 des enfants, qui sont les 6 enfants de Léa et Binyamin qui descend en Égypte. Yosef n'est pas cité puisqu'il est déjà en Égypte. Binyamin étant le fils de Rachel. Après viennent les 4 enfants des servantes qui sont Dan, Naphtali, Gad et Asher. Alors on remarque Dan et Naphtali, Dan et Naphtali qui sont les 2 enfants de Bila, et Gad et Asher qui sont les 2 enfants de Zilpa. Et ici, ces 4-là, à la différence de la paracha précédente, ils sont marqués dans l'ordre de naissance. Et on marque le Vav, Dan et Naphtali, Dan et Naphtali, donc c'est virgule, Gad et Asher. Donc on a bien noté la différence entre, on a séparé les 2 enfants de Bila et les 2 enfants de Zilpa. Maintenant, pourquoi ces noms-là sont marqués dans 3 versets? On aurait pu très bien citer tous les noms en un seul verset. Pourquoi? Ou bien en 2 versets. Pourquoi avoir mis 7, ils sont 11, alors on aurait pu mettre 5 et 6 ou 6 et 5? En 2 versets, si on voulait. Alors l'idée, elle est la suivante. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda sont les premiers enfants qui voient le jour par Léa leur donne le jour. Elle les accouche. Après cela, il est dit que Léa a cessé d'accoucher. Mais elle a cessé de concevoir. Et Rachel n'a pas d'enfant. Alors, elle donne sa servante, Bilha, à Yaakov. Et là, vont naître Dan et Naphtali. Léa, en voyant ce qu'elle a fait sa sœur, elle va faire de même. Elle va prendre Zilpa, elle va donner à Yaakov, et il aura Gad et Asher. Donc, de sorte que Dan, Naphtali, Gad et Asher sont nés juste après Yehuda, dans cet ordre-là. Donc, l'ordre, normalement, aurait dû être Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Dan, Naphtali, Gad, Asher. Après cela, Léa va donner naissance à Issachar et Zevulun, et plus tard, Rachel donnera naissance à Binyamin. Alors, pourquoi avoir coupé de cette manière-là? Pour bien marquer la différence. C'est, certes, on aurait dû mettre Dan, Naphtali, donc le 4e pasouk, à la place du 3e, c'est vrai. Mais la Torah voulait indiquer, voulait citer les 7 enfants nés de Léa et de Rachel dans l'ordre, ensemble. Elle voulait mettre d'abord en premier les enfants de Léa et de Rachel, et seulement ensuite les enfants des servantes. C'est pour cela que la Torah a conclu, a marqué 4 premiers, les 4 premiers dans un pasouk, pour marquer la différence, que ces 4-là sont nés en premier. Après, elle marque Issachar, Zevulun, ou bien, comme si c'est une parenthèse, qui sont introduits là, dans le désordre, mais l'intention est de citer les 6 enfants de Léa d'un coup, et de citer aussi les enfants, l'enfant Binyamin, le fils de Rachel. Et seulement ensuite viendront les 4 enfants, dans l'ordre de naissance, des Shvachot. C'est l'idée, c'est pour ça qu'il y a marqué 3 versets. Donc, nous avons déjà précisé, indiqué que ces noms-là sont porteurs de la délivrance. Nous allons voir à présent comment chacun fait référence à la délivrance. Alors, le Midrashi, dans Shemot Rabba, au début, Othé, Parasha Aleph Ot et les Shemot ben Israël Hashem Geulat Israël Nizkerukan, ils sont cités, mentionnés en référence à la délivrance. Alors Réhouven, alors comme il est dit que Ra'o Ra'iti et Oni Ami, Kadosh Baruch Hu, quand il interpelle Moshe pour l'envoyer en mission, il dit j'ai vu Ra'o Ra'iti, j'ai vu deux fois plus qu'une la détresse de mon peuple. Donc la vision ici. Kadosh Baruch Hu, il a vu la situation d'Israël. Shimon, Hashem va'ishma Elohim et na'akatam. Il est dit que l'Éternel a entendu leur plainte, leur cri, leur complainte, leur souffrance. Donc ils élevaient une plainte, ils n'arrivaient même pas à prononcer des mots. Lévi, Hashem, shinitchaber Kadosh Baruch Hu letzaratam. Mitor Asséné. Donc on voit que quand Hachem se dévoile à Moshe, il se dévoile dans un séné, dans un buisson. Le buisson brûle. Donc le buisson fait référence à Israël, qui est dans la section la plus basse. Et il est brûlé par le feu de l'exil. Donc et lui, Kadosh Baruch Hu, se dévoile et appelle Moshe du buisson, donc de la souffrance d'Israël. Les Kayem Hachénémar, Eimo Anochi Betsara. Donc Akadosh Baruch Hu est avec lui dans sa douleur. Donc la présence divine accompagne, comme nous l'avons dit, de tout temps Israël, là où il se trouve. Et à plus forte raison dans la difficulté. Yehuda, Hachem, Shehodou l'Akadosh Baruch Hu. Donc après la délivrance, ils vont faire le Hallel, ils vont louer l'Éternel, ils vont remercier Akadosh Baruch Hu de les avoir sortis. Donc chaque fois qu'il y a un miracle ou une intervention divine, alors chacun d'entre nous a l'obligation de louer, en particulier quand il s'agit d'une délivrance de la communauté, du global. Issachar, chez Nathan Lahem, Akadosh Baruch Hu, Sachar, chez Aboudam. Donc quand il sort, Issachar fait référence au salaire, à la rémunération, à la récompense, et que Akadosh Baruch Hu va leur donner quand ils sortiront remplis de richesses. Ils emporteront avec eux toutes les richesses de l'Égypte. Et qu'ils auront aussi le butin que la mer va rejeter quand les Égyptiens seront immergés. Donc ça signifie en vérité qu'ils vont sortir, que rien n'est perdu, que toutes les énergies, toutes les énergies qu'ils ont investies en Égypte, donc l'argent, la richesse, tout ça, ça signifie, c'est la matérie, le symbole, ça symbolise les énergies, les individus qui ont travaillé, qui ont perdu leur, donc tout ça c'est perdu, c'est éparpillé, et maintenant tout ça sera récupéré, donc rien n'est perdu. Donc c'est ça la Nehama, la consolation, c'est la consolation tient au fait que ce qui a été perdu a été retrouvé, donc on n'a rien perdu en fait. Zevulun, le mot Zevul, c'est la résidence, il y a un des cieux qui s'appelle Zevul, donc Zevulun c'est là où réside Akadosh Baruch Hu, donc Akadosh Baruch Hu a installé sa présence parmi eux. Comme il est dit, Vein Solim, Migdash, Veshachanti, Betocham. Vein Zevul, et là, Betamigdash, donc c'est le sanctuaire. Fait référence, Zevul, c'est le sanctuaire. Dan, Hashem, Vegam, et Agoya, Sheria, Avodou, Dan, Anochi. Donc c'est les Égyptiens ont été Dan, c'est la justice qui s'appliquera à ceux qui les ont asservis de manière exagérée. Et c'est seulement après qu'ils sortiront avec, c'est ce que Akadosh Baruch Hu dit à Avraham dans la vision de Brit Ben Abetarim, l'alliance des bourses, là où il lui dit, voilà, ta descendance sera esclave, etc., étrangère et esclave, asservie. Alors il dit, mais ne t'inquiète pas, ce peuple-là qui la servira, je le jugerai. Et c'est seulement après qu'ils sortiront avec de grandes richesses. Naphtali, alors que signifie Naphtali? Hashem, Torah, ou Mitzvot, chez Nathan, l'aim, Akadosh Baruch Hu, chez Katouf, Bahem, ou Mitoukani, Mitdevash, Venofet, Sophim. Donc, ça signifie, Naphtali, c'est quelque chose d'agréable. qui fait référence à la Torah et aux Mitzvot, qui doivent être agréables, un goût agréable, un goût mielleux, une satisfaction. Gad fait référence là à la manne, au manne qui va tomber, le pain céleste qui tombait, comme il est dit, ve'aman kezera Gad. Donc ça fait référence à la manne qui tombe. Asher, sheyumi ashrim otam kol shomei geulatam. Alors tout celui qui en, ils les ont enrichis, ils les ont félicités, tous les peuples qui ont entendu la délivrance, ont envoyé leurs félicitations et ils les ont enrichis. Et donc les Israël étaient heureux de leur existence. Donc ça, c'est, on voit que les noms correspondent aux étapes ou à des aspects de la délivrance. Donc c'est comme si que ces noms des enfants d'Israël contenaient donc les énergies qui vont permettre après, ils contiennent à l'état de grains, de noyaux, de petites étincelles, qu'ils contiennent tous les éléments qui vont permettre la délivrance, et à tous les niveaux. Donc ces éléments-là sont contenus dans les noms. C'est ça le mot, c'est ça que les tribus d'Israël contiennent cette puissance. Et la puissance de chacun n'a d'intérêt, n'a de réalité que lorsqu'il y a une cohésion. Donc c'est ça, c'est pour ça qu'il commence par le terme « Ve'ele Shemot Bene Israël ». Donc nous devons bien assimiler le fait que la délivrance ne se fait... En fait, les énergies de la délivrance sont innées en nous. Mais la délivrance d'Égypte, la délivrance à venir, ces énergies-là sont semées en nous, nous les possédons au fond de nous. Mais elles ne peuvent jaillir que lorsqu'il y a une cohésion, lorsqu'il y a une union, une cohésion, une cohérence dans tous les aspects du peuple. Chaque tribu a un aspect particulier, mais se fond dans un corps unique. C'est à cela que fait référence les 12 pierres. Alors il y a plusieurs versions. Quand il y a Jacob Abinou, il prend des pierres là où il va passer la nuit. Il y a plusieurs versions. Une version, il y a un avis qui dit qu'il a pris 12 pierres. Et les 12 pierres se sont fondus en un seul gros rocher. Donc ça, c'est ça. Chaque individu, chaque tribu se fond dans. Et c'est les douze pierres qui sont mentionnées avec Moshe, c'est les 12 pierres de Yoshua. Donc ces 12 pierres-là reviennent continuellement. Elles se fondent en une seule entité, un seul corps. Et c'est alors que les énergies individuelles se conjuguent et va permettre la délivrance globale. C'est le sens que nous avons dit la semaine dernière lors de la bracha que Yaakov octroie, attribue à chaque tribu. Alors, il attribue à chacun d'entre eux une bracha spécifique, mais à la fin, il est dit qu'il les a bénis globalement. Donc, il y a une bénédiction globale, une bénédiction spécifique. Et la bénédiction spécifique, individuelle, chacun selon sa particularité, il les a bénis. Il n'a pas marqué « il l'a béni », c'est pour indiquer que chaque individu profite et bénéficie de la bénédiction globale, et que la globalité, l'ensemble des individus, bénéficie de la bracha particulière de chacun. Et c'est dans cette idée-là que la délivrance peut se faire. Comme si que la bracha, les brachot que Yaakov a attribué à ses enfants avant de quitter ce monde, il a semé, il a placé les éléments de la délivrance en eux. C'est ça, nous avons posé la question, est-ce que Yaakov a dévoilé la délivrance à ses enfants ou ne l'a pas dévoilé? sous certains aspects, il l'a dévoilé, il leur a donné les éléments pour comprendre comment la délivrance peut se produire. Et qu'est-ce qui fera que la délivrance se jaillit soudainement au moment où on s'y attend le moins. Donc c'est ça ce qui est mentionné ici. Vel et Shemot Bene Israël Abaim Israima. Ish et Yaakov Ishu Betoba. Ils sont venus avec Yaakov. Yaakov fait référence à la présence de la Shekhina, nous dit le Zohar. Alors sans citer les 11 personnes, et après les 11 fils, comme nous l'avons expliqué, et puis il dit, vaïe, qu'on est fait, je sais, il y a Yaakov, j'ai vu Mnafesh. Mais on s'est fait la ministre. En tout, ils étaient 70. Le concept des 70 nous dit le Zohar, qu'est-ce que ça vient faire ici? Quel intérêt a ce terme de 70? Alors, le Zohar indique que l'Égypte, il y a 70 nations dans le monde. Mais en vérité, il y en a 72. Il y a deux chefs de nations qui sont Ishmaël, Esav et Ishmaël. Chacun commandant, donc il y a deux piliers dans le monde. Il y a le pilier droit, le pilier gauche des nations. Chacune des nations principales, essentielles, commande 35 nations. Donc c'est ce qui est marqué ici. Le système opposé à la Torah ou en symétrie de la Torah ne contient pas de pilier central. Les clipotes, ils n'ont pas de date. Donc il manque un concept du pilier central. Le pilier central n'est pas entier. Donc ils sont au nombre de 70. Mais ces deux, Ishmaël et Esav, sont soudés et ils sont d'entre les mains de l'Égypte. L'Égypte, c'est les deux concepts d'Ishmaël et d'Esav qui sont conjugués dans les mains de Pharaon. C'est ça l'Égypte. Donc quand les 70 nations, l'Égypte va parvenir, l'Égypte qui était au départ une nation normale, qui n'avait rien de particulier, va devenir sous l'effet de Yosef la puissance dominante. Donc toutes les nations déversent, viennent acheter du blé, viennent se nourrir et déversent leur or. Donc c'est les nations qui ont donné... Les nations du monde déversent leurs énergies en Égypte et permettent à l'Égypte de devenir une puissance qui les domine toutes. Donc c'est comme si que l'Égypte est double, a un double rôle. Et en parallèle de ça, pour réduire les influx, les forces des nations, alors il y a 70 personnes, chacun nous dit le Zohar, Keneged, contre les influences néfastes, négatives. Les nations peuvent avoir des influences positives, mais ici il s'agit des influences négatives, celles d'oppresser, d'opprimer, de l'idolâtrie, etc. Donc tout ça, il faut s'en préserver. Comment? Grâce aux 70 personnes qui descendent en Égypte. Qu'est-ce que 70? C'est 6 fois 12. Les 12, c'est référence aux 12 éléments de la création. Donc aux 12, nous avons déjà parlé, les Shvatim sont les piliers, les 12 piliers de ce monde, qui font référence aux 12 compositions du Shem Havaya Baruch Hu, qui correspondent aux 12 mois, aux 12 signes astrologiques, etc. Donc tout ça, c'est l'expression de la puissance de Dieu. Mais cette puissance-là sur Terre, elle a une dimension du 6, de telle sorte qu'on arrive à 70. Donc conjugué, on arrive à 70. Donc le 12 devient 70 et permet, c'est le concept de la dimension de l'espace, et c'est cet espace-là qui va se constituer en Égypte. Nous développerons dans une prochaine discussion, le concept du Makom. Du Makom, qu'est-ce que ça signifie, le lieu, la dimension d'Israël et la place de Dieu dans cette dimension, le Makom, et que les 12 tribus sont les limites de les piliers de la création qui délimitent l'espace du créé. Baruch Adonai Le'olam, amen ve amen.